Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. La France-Afrique, c'est fini. Plus question pour Paris d'interférer militairement dans les affaires intérieures des pays africains. Deux promesses faites par Emmanuel Macron au lendemain de son élection en mai 2017. Deux promesses que le président français semble avoir quelque peu oubliées. Du 3 au 6 février dernier, des Mirage 2000 français sont allés frapper au nord du Tchad à la demande de N'Djamena, une colonne de rebelles venue en pick-up du sud libyen. Qualifiée par le régime d'Idriss Déby de terroristes et de mercenaires, ces hommes étaient en réalité des opposants tchadiens de l'UFR, l'Union des Forces de la Résistance, dirigée par Timane Erdimi, qui ne cache pas son objectif, renverser son oncle, le président Déby. Alors pourquoi la France a-t-elle volé au secours de l'armée tchadienne? Quel rapport entre ces raids et la lutte antiterroriste que sont censés mener les militaires de l'opération Barkhane? L'opposition tchadienne des partis traditionnels aux groupes armés a-t-elle raison de dénoncer une violation du droit international? En continuant à soutenir un autocrate au pouvoir depuis bientôt 30 ans, la France prend-elle des risques à plus long terme? Le Tchad est-il toujours un solide pilier au sein d'une région en pleine déliquescence? On en débat avec nos invités. Marielle Debeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Vincent Hugeux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique et du Proche-Orient. Et nous attendons d'une minute à l'autre Jérôme Tubiana, anthropologue, journaliste, spécialiste du Darfour, du Soudan du Sud et du Tchad pour le Small Arms Survey. Marielle Debeau, ma première question est pour vous. Ces frappes françaises de février dans le nord du Tchad, est-ce que c'est un tournant dans la politique africaine de la France ou est-ce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil?
Non, il n'y a rien de nouveau au Tchad. L'armée française est intervenue de façon très régulière depuis l'indépendance du pays. C'est même le pays d'Afrique où l'armée française est intervenue le plus souvent depuis l'indépendance. Donc l'indépendance en 1960, il y a eu une succession d'opérations extérieures et on peut dire que depuis 1960, l'armée française n'a quasiment jamais quitté le Tchad.
Oui, Vincent Hugeux, vous êtes d'accord?
C'est l'ultime avatar en date d'une ingérence chronique. Enfin, souvenons-nous quand même que si l'indépendance formelle est proclamée en 1960, la zone qu'on appelle le BET, c'est-à-dire Borku et Nédi-Tibesti, le grand nord du Tchad, ne sort de l'orbite de Paris que 5 ans plus tard. Et cela dit, ne sort de l'orbite que d'une manière assez illusoire, puisque ensuite, vous avez toute la période où la France lutte contre le Frelinat, le Front de Libération Nationale du Tchad, donc c'est de la contre-insurrection classique. Ensuite, il y a l'obsession Kadhafi, qui va venir dicter à la France parfois des allégeances aveugles, et c'est ainsi qu'on va soutenir à bout de bras un Hissène Habré. Il faut se souvenir quand même qu'en 2017, il a été condamné à la prison à perpétuité par un tribunal spécial siégeant à Dakar pour crimes contre l'humanité. Et Pervier, pour ne citer que ce dernier exemple, cette fameuse opération, déploiement sauf erreur, et si ma mémoire ne me trahit pas, 1986, et qui ne cédera au fond la place qu'à Barkhane lorsque Serval aura été élargi et amplifié aux 5 pays de la région. Donc oui, c'est une sorte d'invariant de la politique africaine de la France, quelle que soit la couleur politique du locataire de l'Élysée.
Oui, parce que, on l'a dit, le président Macron avait promis de ne plus interférer militairement. Et là, en l'occurrence, il l'a fait avec un peu d'embarras quand même au sein du gouvernement après. On l'a senti dans les propos de Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée, dans les propos d'Édouard Philippe, dans son courrier adressé au président de l'Assemblée, au président du Sénat. Les deux hommes ont parlé de groupes armés venus de Libye, sans préciser groupes armés tchadiens.
Oui, les politiques français ont effectivement insisté sur le fait que ces rebelles venaient de Libye pour créer une forme de confusion sur l'identité de ceux qui avaient été frappés par l'armée française, mais il s'agissait véritablement de rebelles tchadiens, donc d'une affaire tchado-tchadienne. Ces rebelles n'ont rien de grand démocrate, ce sont des anciens alliés, des anciens proches, y compris au niveau familial d'Idriss Déby, mais ils ne peuvent pas être confondus avec les terroristes qui sont le mandat de Barkhane. Barkhane, à moins de redéfinir complètement ce que signifie terroriste, à moins de qualifier n'importe quel opposant armé dans la région de terroriste.
Vincent Huge.
Le champ lexical choisi par Idriss Déby Itno lui-même était évidemment une invitation à cette légitimation-là, puisque lui parlait très spontanément de terroriste pour désigner les rebelles en question. Il connaît la chanson, puisqu'il a pris à peu près le même chemin pour prendre le pouvoir en 1990, avec le concours actif de Paris, on n'en sort pas. Il y a plusieurs écueils quand même dans cette posture française, et je souscris tout à fait à l'idée qu'il y a un embarras palpable de Paris. D'abord, l'article 35 de la Constitution française stipule que le pouvoir exécutif doit tenir informé la représentation nationale. Alors certes, il y a eu ce courrier, mais évasif, extrêmement succinct, et par ailleurs, qui ne rend pas justice à l'alinéa 2 de ce fameux article, qui dit qu'il faut clarifier les objectifs poursuivis, ce qui n'a pas été fait. On a simplement informé le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Puis ensuite, il y a plus fondamentalement, me semble-t-il, un double travers. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un détournement de mandat et un détournement de moyens. Détournement de mandat, c'est lutte contre le terrorisme djihadiste au Sahel et au Sahara. On en est loin. Et puis ensuite, détournement de moyens. On est allé chercher des mirages de l'opération Barkhane qui n'ont pas vocation à faire autre chose qu'à pilonner des colonnes djihadistes et non pas à voler au secours d'un président aux abois. Et ensuite, vous l'évoquiez, Chantal, dans le préambule, c'est vrai qu'il y a clairement un reniement du serment macronien sur le thème « plus d'interférences, les armes à la main en tout cas, dans les affaires intérieures de nos partenaires ».
Il existe un accord de coopération militaire entre la France et le Tchad qui date de 1976, mais cet accord ne prévoit pas d'aide opérationnelle, Marielle Debeau.
C'est un accord de coopération qui est interprété de façon très large par la France et le Tchad depuis sa signature. Il faut aussi rappeler que ce n'est pas la première fois que la France vient sauver Idriss Déby. Ça a déjà été le cas en avril 2006 et en février 2008, quand des colonnes rebelles avaient attaqué la capitale. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en 2006 et en 2008, le soutien de la France avait été massif mais discret. C'est-à-dire que les Français, en février 2008, ont contrôlé l'aéroport de N'Djamena, ce qui a permis évidemment l'évacuation des ressortissants, mais aussi l'utilisation de cet aéroport par l'armée tchadienne. Il y a eu des coups de semonce, il y a eu un travail de renseignement au profit de l'armée tchadienne, mais il n'y avait pas eu de frappe aérienne directe sur les colonnes rebelles. Or, c'est ce qui s'est passé en février 2019. Et je suis un peu étonnée que cette intervention n'ait pas suscité un débat plus important au sein de la classe politique française et au-delà dans le pays. Et je suis quand même sidérée de la pauvreté en France des débats sur les choix de politique étrangère et de politique de défense.
Vincent Huge.
Quand débat il y a, au demeurant. Il se trouve simplement qu'un député français sait qu'il ne sera jamais élu ni réélu sur un engagement hors les murs et donc il ne va pas y consacrer son temps ou son énergie. Pour avoir été invité parfois à plancher devant des missions d'enquête parlementaire sur la politique africaine de la France ou des commissions d'enquête, j'ai toujours été atterré par le degré de méconnaissance abyssale de beaucoup de nos élus. J'avais parfois l'impression de m'engager dans un numéro d'Afrique pour les nuls, quoi. Cela dit, pour revenir à la question de la légalité et de l'argumentaire de l'opposition, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est les acrobaties casuistiques, par exemple, de Jean-Yves Le Drian, qui effectivement, pour essayer de ravauder ce tapis de la légalité internationale, revient sur la menace de coup d'État. Alors c'est vrai que Timam Erdemi ne fait pas mystère de son envie d'occuper le trône de Tonton, c'est clair. Mais aussi, il a souligné que c'était conforme au droit international, à une interprétation assez lâche du droit international. Il y a d'ailleurs chez Le Drian un phénomène qui est assez frappant, c'est une réelle fascination pour le personnage Idriss Déby. Pour les avoir vus en duettiste à diverses occasions, j'avais l'impression qu'il était une sorte d'admirateur, peut-être avec ce vieux fantasme du Redzou. Les Tchadiens sont des combattants aguerris, etc. Sans eux, la situation serait sans doute encore bien pire aujourd'hui dans l'ère sahélienne. Tout ça est très vrai. Mais je retrouve, si on veut établir une sorte d'analogie, le même type de fascination que celle que beaucoup de militaires français éprouvent pour les Touaregs, par exemple, quand on parle du Niger ou de l'extrême nord du Mali.
Les grands hommes bleus.
Au port Altier, et au regard noble, enfin, etc. Voilà. Et c'est assez amusant parce que Le Drian se réclame assez souvent d'un lien privilégié qu'il aurait tissé avec Déby. Des diplomates africains ou pas m'ont dit à plusieurs reprises, ils se bercent d'illusions. Hein, vous connaissez la formule de De Gaulle, les États n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Eh bien, Idriss Déby, en la matière, est terriblement étatique. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il lui est plutôt agréable d'avoir à Paris un interprète aussi zélé de ces options. Et puis en plus, il y a une notion qui me paraît extrêmement cruciale aujourd'hui dans cette région du monde, c'est la notion de rente de situation géopolitique. Encore mieux qu'un Paul Biya au Cameroun, qu'un Bongo au Gabon, Déby a mesuré tout le profit qu'il pouvait tirer du besoin que nous avions de son engagement permanent, courageux. Les troupes tchadiennes ont payé un tribut écrasant à cette lutte contre le djihadisme. Et donc, avec un cynisme parfaitement assumé, il y a une sorte de marché tacite, qui n'est évidemment jamais explicite, sur le thème « Écoutez, on est là, on est fiable, on est prêt, on y va ». On va au charbon, en contrepartie, ne cassez pas les pieds avec la date des législatives, on les attend quand même depuis 2015 au passage, et avec l'état des droits de l'homme chez nous, quoi. Alors évidemment, quand vous dites ça à l'Élysée, on pousse des cris d'orfraie, mais non, pas du tout, c'est une vision absolument manichéenne et primaire de la situation, mais non, c'est la réalité.
Marielle Debeau, vous êtes d'accord? Idriss Déby, pour lui, la guerre antiterroriste, ou menée en tout cas au nom de l'antiterrorisme dans le Sahel, c'est une aubaine.
Oui, complètement. C'est une rente diplomatique qu'il exploite avec beaucoup d'intelligence. L'image du Tchad a radicalement changé sur la scène régionale et sur la scène internationale à partir de 2010, à partir du moment où la rébellion des années 2005-2009 avait été écrasée militairement. Et à partir de ce moment-là, Idriss Déby a véritablement joué la carte militaire, joué du rôle de son armée considérée comme très combative pour intervenir aux côtés des Français au Mali, des Français qui étaient déployés dans le cadre de l'opération Serval. Aujourd'hui, l'armée tchadienne est très mobilisée dans le cadre du G5 Sahel, dans le Sahel et le Sahara. C'est aussi une des armées les plus puissantes dans le bassin du lac Tchad contre Boko Haram. Et cet engagement de l'armée fait que Déby survit aussi grâce à cette carte qu'il s'est jouée. Et ça pose un problème pas uniquement au Tchad, mais dans d'autres pays où les autorités savent très bien qu'elles sont indispensables à l'allié français et pour la politique antiterroriste, mais aussi, et particulièrement dans le cas du Niger, dans le cadre des politiques anti-migratoires de l'Union européenne. On sait que ces politiques sont meurtrières pour les migrants, qu'elles sont complètement inefficaces, mais aussi qu'elles offrent au régime en place une rente qu'ils savent très bien exploiter.
Je voudrais qu'on reparle de cette fameuse colonne de rebelles venus du sud libyen. D'abord, est-ce qu'ils ont fui devant l'avancée des troupes de Khalifa Haftar, Vincent Hugeux? Est-ce que c'était une opération stratégiquement élaborée ou est-ce que il était temps qu'ils quittent le sud libyen où ils étaient relativement tranquilles ces derniers temps?
C'est une équation à plusieurs inconnues, mais il est tout à fait patent que l'offensive menée par Khalifa Haftar dans le Fezzan, dans le sud de la Libye et jusqu'à la zone frontalière a un peu perturbé le logiciel de ces groupes qui avaient cru trouver un sanctuaire paisible et en tout cas sécurisé au sud de la Libye.
Ils sont combien? Donc ces groupes tchadiens, ils sont combien? Ils représentent combien d'hommes? On a une idée ou pas?
Il y a plusieurs factions. Là, par exemple, pour s'en tenir à ce cas de début février, on parlait de colonnes de pick-up. Alors, une, deux ou trois selon les versions, et entre 20 et 40 véhicules, là encore, selon les versions. Donc, c'était relativement imprécis. Ça n'est pas anodin, mais c'est pas non plus des armées constituées. Donc, que cette initiative ait été en quelque sorte un peu précipitée par la pression exercée par les forces d'Haftar et par l'insécurité nouvelle qui régnait au sud de Libye, je crois que c'est vrai. Mais certains ont même imaginé qu'en réalité, c'était un leurre et qu'il s'agissait davantage de créer de nouveaux sanctuaires dans des zones extrêmement hostiles et arides de l'extrême nord du Tchad. Donc voilà, est-ce que il y avait d'une part la volonté opérationnelle et les moyens d'aller déloger Idriss Déby du Palais Rose? Très honnêtement, je pense que nous ne sommes pas armés pour répondre de manière tout à fait formelle à cette question-là.
Notre confrère du JDD, François Clémenceau, en citant une source française, rapportait que l'objectif de l'UFR aurait été de s'emparer d'Amjaras, le fief natal d'Idriss Déby, pour prendre le contrôle de la région d'Abéché. Ça vous paraît plausible?
Ça fait partie des hypothèses de travail qui ont circulé dans les semaines qui ont suivi les frappes en question. question. Mais très honnêtement, je n'ai pas d'aveu de la bouche du cheval.
Et côté pouvoir, on affirme que les frappes françaises ont détruit une quarantaine de pick-up, qu'elles ont permis de capturer 250 rebelles, dont 4 chefs. L'UFR, elle, indique avoir perdu 10 hommes. Là encore, impossible de vérifier les dires des deux camps.
Non, et ce qui est en revanche assez frappant, c'est que les porte-parole de l'UFR eux-mêmes ont admis avoir été surpris, non pas par l'engagement français, mais par la nature de cet engagement. C'est-à-dire qu'en fond, pour revenir à ce que Marielle Debeau évoquait tout à l'heure, l'épisode de février de 2008, ils s'attendaient à la réédition. C'est-à-dire appui très net, éventuellement ravitaillement, munitions, renseignements, couverture aérienne, coup de semonce, ce que vous voulez. Mais ils ont, avec une sorte de candeur assez surprenante, admis que nous ne nous attendions pas à des bombardements directs par la France. Et d'ailleurs, certains d'entre eux disent « l'armée tchadienne ne s'est pas battue là-haut. C'est la France qui s'est battue pour elle ».
Jérôme Tubiana, merci de nous avoir rejoints.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que l'UFR comptait vraiment, selon vous, répéter le scénario de 2008 et aller jusqu'à N'Djamena pour renverser Idriss Déby?
Peut-être à long terme avec de la chance, mais je crois que l'UFR d'aujourd'hui n'est pas de la même nature que la coalition rebelle précisément de 2008. C'est un groupe beaucoup plus limité, notamment ethniquement. Donc la particularité de l'UFR, c'est que c'est un groupe qui est composé et dirigé par des membres de la famille du président et qui est composé de beaucoup de gens de l'ethnie du président tchadien, des Arawa, et c'est aussi l'ethnie qui est dominante dans l'armée tchadienne. Donc leur stratégie jusque-là, ça a été d'être en contact permanent avec l'armée pour essayer de provoquer des défections. Et donc le danger, c'est pas tellement qu'une colonne de 40 véhicules se promène dans le nord-est du Tchad. Le danger pour le pouvoir tchadien, c'est qu'aucune force tchadienne n'arrive vraiment à s'opposer à cette colonne à cause d'affinités ethniques, voire familiales. Et du coup, quand la colonne est entrée en territoire tchadien, on a effectivement, il y a eu des informations comme quoi des garnisons refusaient de se porter à sa rencontre, de lui faire obstacle, de la combattre, et aussi que l'aviation tchadienne refusait de les bombarder, ce qui peut expliquer le recours à l'intervention française. Même si, à mon avis, il y a une autre raison du recours à l'intervention française, c'est le fait, qui pour le coup est plutôt extrêmement fin politiquement de la part d'Idriss Déby, de tester la qualité de son alliance actuelle avec la France. Et pour le coup, le test est positif. D'une certaine manière, la France s'est un petit peu fait piéger en allant très très loin dans un soutien qui est bien au-delà du soutien habituel. Ce qui explique effectivement, comme le disait Vincent, que l'UFR ait été surprise. Parce que d'habitude, la France a tendance à soutenir les régiments en place, mais n'intervient vraiment qu'au dernier moment, tout en gardant un contact avec les rébellions, pour, au cas où celles-ci dominent, et c'est ce qui est arrivé à Idriss Déby quand il a pris le pouvoir en 89, pour accompagner le changement de pouvoir, faire que il reste d'une certaine manière un peu contrôlé et que les relations d'un nouveau pouvoir tchadien avec la France restent les mêmes. Et là, on a un signal qui est vraiment très différent, en fait. Le signal qui est envoyé par la France, c'est qu'on peut plus prendre le pouvoir par les armes. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Le Drian, il a lui-même laissé entendre que l'hypothèse d'un risque de changement du pouvoir en intérieur et pas d'une attaque rebelle était plausible, puisqu'il a parlé de coup d'État et non pas de raid sur la capitale ou sur une autre cible.
Marielle Debeau, vous êtes d'accord avec cette analyse? La France s'est fait piéger par Idriss Déby?
Oui, enfin la France a bien voulu se laisser piéger. On revient un peu dans l'histoire, on se rend compte que, au nom de la stabilité, la France n'a cessé d'intervenir pour protéger Issanabré, donc ça c'était au temps de la guerre froide, et quand le containment de la Libye de Kadhafi était l'obsession des Français et des Américains. Puis, sous Déby, il y a eu cette succession d'interventions, et au-delà des interventions, un soutien massif à Idriss Déby et à son régime. Et on peut pas dire que les Français se sont laissés piéger, mais plutôt qu'ils sont dans un cadre de pensée qui privilégie une forme de stabilité, mais une stabilité qui est extrêmement réduite, et la vision de la stabilité du Sahel par les Français est la stabilité des régimes en place, alors qu'on pourrait avoir une définition radicalement différente de la stabilité et considérer par exemple que la vie des populations n'est pas stable, n'est pas sûre, tant qu'ils n'ont pas accès à des hôpitaux, à des écoles qui fonctionnent. Enfin, aujourd'hui, les fonctionnaires sont payés irrégulièrement en raison d'une grave crise économique et de la chute des cours du pétrole et de la mauvaise gestion des ressources ressources par l'État, mais c'est aussi une forme de sécurité qui devrait être prise en compte. Or, ce qui intéresse les politiques françaises, c'est exclusivement la sécurité et la stabilité superficielle de cette région.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI et on se retrouve dans 10 minutes pour continuer à parler du Tchad.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue dans la seconde partie de Géopolitique. On continue de débattre des liaisons dangereuses entre le Tchad et la France avec Marielle Debeau, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, et les journalistes Jérôme Tubiana et Vincent Hugeux. L'armée tchadienne, on l'a dit tout à l'heure, a la réputation d'être la plus solide de la région. Elle fournit des hommes à la MINUSMA au Mali, à la MINUSCA en Centrafrique. Elle combat le terrorisme islamiste au Sahel, le groupe nigérian Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Est-ce que ça veut dire que cette réputation est usurpée par rapport à ce qui s'est passé là en février, ou est-ce que c'est une armée trop sollicitée sur plusieurs fronts? Vincent Hugeux.
Ce que cette séquence dévoile, c'est qu'effectivement l'étirement extrême du potentiel opérationnel de l'armée tchadienne atteint aujourd'hui ses limites, car il n'y a pas un front qui soit totalement apaisé. Enfin, en ce moment même, dans le nord-ouest du pays, dans des secteurs aurifères, il y a des opérations extrêmement rugueuses, avec des pertes significatives. On a quand même été conduit à refermer, officiellement en tout cas, la frontière extrêmement poreuse entre le Tchad et la Libye. Il y a donc ces engagements dans l'extrême nord du Cameroun, ces engagements dans toute la zone du lac Tchad, et l'armée tchadienne apparaît tellement, pour d'assez bonnes raisons d'ailleurs, comme la seule qui soit un peu à la hauteur du défi, dans sa manière de procéder, dans le professionnalisme plus ou moins avéré de ses cadres, que maintenant, il y a une forme d'épuisement. Et puis, pour, là encore, signifier le degré d'intimité entre Paris et N'Djamena, il faut savoir que le Tchad, pays producteur de pétrole, en tout cas officiellement, reçoit chaque année l'équivalent de 4 millions d'euros de carburant pour ses blindés et son aviation. C'est quand même un paradoxe singulier.
Et ce carburant, donc, peut servir aussi aux hélicoptères de l'armée tchadienne, dans ce qui n'a rien à voir avec la lutte antiterroriste au Sahel.
Oui, et dont certains parfois s'écrasent. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a un autre phénomène, une autre facette de cette relativisation de la puissance de l'armée tchadienne. C'est la purge qui a été opérée voilà quelques jours.
La semaine dernière.
Le chef d'état-major des armées a été viré. Alors, c'est vrai, 24 heures après une opération qui avait été fatale officiellement à 23 soldats dans la zone de Dangdala, sud-ouest du pays.
Par Boko Haram,
exactement. D'autres figures clés de l'appareil militaro-sécuritaire ont été évincées. Alors certes, Déby a remplacé le chef d'état-major par un fidèle, d'entre les fidèles, qui a d'ailleurs été, je crois, dans une vie antérieure directeur de la police nationale et qui est réputé extrêmement proche du premier cercle présidentiel. Mais on voit bien que, voilà, tout ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Qu'il s'agisse de la hiérarchie de sa conduite, de ce qu'évoquait Jérôme Tubiana tout à l'heure par rapport aux questions, aux doutes qui peuvent exister sur les allégeances familiales, ethniques, c'est pas si simple, c'est pas quelque chose qui marche au pas, tout uniment et sans accroc.
Jérôme Tubiana, cette reprise en main par Idriss Déby de l'appareil sécuritaire, ces changements dans l'armée, est-ce que ça traduit une vraie nervosité du pouvoir ?
Oui, en même temps, c'est pas la première fois qu'il y a des changements, mais on voit l'ascension de gens qui sont mieux à même, et pas seulement de manière militaire, mais de manière politique, de maîtriser les risques de désertion, en fait, de défection. Parce que c'est sûr que l'armée tchadienne est régulièrement insatisfaite parce que on lui demande beaucoup à l'étranger. Le président Déby l'a reconnu lui-même, il fait savoir à la communauté internationale que ça a aussi un coût pour lui. Donc il faut financer ça, justement. Mais c'est aussi une armée qui... Quelles que soient ses qualités au combat, les officiers conservent une très forte autonomie, notamment, par exemple, dans leur manière de combattre les rébellions. Pour eux, toutes les rébellions ne se combattent pas de la même manière. Et cette rébellion de l'UFR est beaucoup plus difficile à combattre pour eux, à cause de l'aspect tribal. Et puis aussi, par rapport au problème qu'il y a eu au nord-ouest, sur les sites aurifères, c'est justement aussi lié à ces questions tribales et au fait que beaucoup d'officiers avaient de manière autonome, en fait, commencé à chercher de l'or ou à envoyer des ouvriers chercher de l'or. Et ce qui pose au problème au pouvoir tchadien, c'est pas la porosité de la frontière libyenne, mais c'est le fait que sur ces sites aurifères, on peut rencontrer aussi bien des rebelles, d'anciens rebelles, ou des jeunes qui ont une expérience militaire, ou des potentiellement qui peuvent devenir des rebelles et qui peuvent être amenés à côtoyer des officiers. Et c'est ce mélange de gens qui sont potentiellement dangereux, d'ethnies différentes, qui peut représenter une menace. C'est comme ça qu'il faut comprendre les évacuations successives des sites d'orpaillage et les tentatives, qui aujourd'hui ont l'air quand même de fonctionner plus que d'habitude, mais qui sont aussi plus violentes, plus fortes, de reprendre en main cette zone. Après, en même temps, il y a le risque, c'est que tous ces orpailleurs insatisfaits et potentiellement qui peuvent devenir des opposants armés, ben aujourd'hui, chasser des sites d'orpaillage, ben justement, où ils étaient quand même assez occupés, il faut le dire, peuvent là aussi de nouveau être tentés de transposer, disons, leur insatisfaction par rapport à la gestion de ces sites d'orpaillage, etc. Le fait de ne pas pouvoir y travailler aussi librement qu'ils le voudraient, peuvent constituer de nouveaux groupes d'opposition armée.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que N'Djamena s'est prévalu de la reprise récente de plusieurs concessions clandestines aurifères dans la zone Kouribougoudi, Miski, etc. Mais que très vite, une crainte a affleuré chez les locaux, c'est que, au fond, ces reprises soient faites au profit de barons du régime, militaires ou pas, directement ou pas. Et j'ajoute qu'il y a un autre élément d'insatisfaction qui est latent, qui est lié à un redécoupage administratif qui est jugé très, très suspect par les autorités, notamment coutumières locales.
Marielle Debeau, ce malaise au sein de l'armée tchadienne, est-ce que le régime n'a pas fait aussi une erreur en coupant dans les revenus des soldats et même des officiers ?
Oui, enfin, le mécontentement est surtout très fort chez les fonctionnaires civils au Tchad qui eux paient un prix beaucoup plus lourd encore que les forces de sécurité dans ce contexte de crise. Et sur l'armée, ce qui me semble important aussi à dire, c'est qu'il y a un décalage énorme entre l'image de cette armée à l'extérieur et notamment en France, où on va beaucoup insister sur sa combativité, ce qui renvoie à un vieux cliché colonial de ce combattant guerrier du désert, combatif, qui a été un vrai fantasme des militaires et des administrateurs coloniaux, et il en reste encore quelque chose aujourd'hui, ce qui est quand même stupéfiant. Donc il y a en France cette image, et pour les Tchadiens et les Tchadiennes, l'armée est avant tout cet instrument de répression, et cette image de répression, elle va jusque dans les pays de la région où l'armée tchadienne n'a pas forcément bonne presse. Si on demande à des centrafricains ce qu'ils pensent de l'armée tchadienne, ils vont en avoir un souvenir extrêmement mauvais. Donc on a une armée qui est construite avec toute une mythologie en France, parce qu'elle rend aussi des grands services dans la région, alors même qu'on doit s'interroger sur la façon dont on soutient une armée qui pose déjà problème et qui risque de poser des problèmes encore plus important le jour où Idriss Déby quittera le pouvoir. Cette armée ne recrute pas parmi toutes les régions du pays, mais dans certains groupes ethniques très proches de ceux du président. Et donc, on a une armée qui est une sorte de bombe à retardement pour l'avenir du pays.
Vincent Hugues.
À l'appui de ce qui vient d'être dit sur l'image, la réputation des soldats tchadiens dans la région, il se trouve qu'à l'automne 2012, j'étais à Bossangoa, dans l'ouest de la République centrafricaine, et les populations locales fuyaient quand des Tchadiens, qui parfois d'ailleurs étaient mêlés à des combattants de la Séléka, approchaient de leur village ou de leur quartier. Ils étaient terrorisés par l'avancée des Tchadiens. Il me semble que sur le mécontentement palpable, effectivement, chez les petits soldats, chez certains sous-officiers, officiers, tout ça s'inscrit quand même dans un contexte social qui, pour Idriss Déby, est assez catastrophique. Il fut un temps pas si lointain où N'Djamena avait instauré ce qui s'appelait le fonds pour les générations futures, qui était une sorte de condition posée par les bailleurs de fonds internationaux pour venir à l'appui du budget tchadien, et qui était censé réserver une part significative, je crois de l'ordre de 10% des recettes pétrolières attendues, espérées, à des investissements sociaux dans l'éducation, la santé, etc., etc. On a oublié, ce rêve est passé. Et puis, amputation quasiment systématique du traitement des fonctionnaires, d'où le mécontentement latent qui était évoqué tout à l'heure. Et puis, on a sabré dans les dépenses d'éducation, etc. Donc, si l'armée était le gage d'une forme d'équité, ce qui est loin d'être le cas, d'une forme de sécurité, mais y compris de sécurité sociale, au sens étymologique du terme, bon, très bien, mais on en est très très loin.
Jérôme Tibiana, est-ce qu'on peut dire que l'armée est devenue le talon d'Achille du régime tchadien ?
Talon d'Achille, je sais pas, mais c'est une armée qui est de fait sous surveillance, même si c'est quand même lié à ce cas particulier de l'UFR, qui est donc ce mouvement qui a une stratégie un peu différente des autres, puisque il compte finalement au moins autant, voire si ce n'est plus, sur provoquer des ralliements dans l'armée que sur des opérations réelles.
Parce que après, les chefs, moi, donc, il faut le rappeler, sont de la même ethnie, parce que Sarawak, c'est le bien, président Déby.
Tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est quand même le message que l'intervention française a envoyé en bombardant la colonne de l'UFR. Il n'est pas seulement destiné aux rebelles, il est aussi destiné à l'armée. C'est un message qui signifie, voilà, pour nous, ça ne doit pas se passer de cette manière-là. La prise de pouvoir classique par les armes n'est plus vraiment autorisée ou tolérée par la France. Donc du coup, la France vraiment sort de sa neutralité. Et pour autant, ce qui pose problème... Parce que à la limite, ce message, il est recevable par beaucoup de Tchadiens. Il y a énormément de Tchadiens, peut-être la majorité, qui voient plutôt d'un mauvais œil l'opposition armée et les tentatives de prise de pouvoir par les armes. Mais comme il n'y a pas vraiment d'alternative jusque-là, en tout cas pour des jeunes qui aspirent à un changement, ça reste l'option quasi incontournable. On est obligé de passer par la voie des armes si on veut avoir une chance de provoquer ou un changement militaire ou des négociations. Or, la France propose rien d'autre. Elle se fait plus que l'arbitre, hein, puisqu'elle intervient, mais elle propose pas d'alternative. Donc maintenant, ce qu'on attendrait de la France, c'est qu'elle propose une voie non armée pour une transition, des négociations avec les groupes armés, un dialogue, etc. Et ça, on le voit pas venir. C'est même probablement une régression par rapport à l'époque de François Hollande, où il y avait pas grand-chose qui se faisait. Hollande, au début, était plutôt critique du pouvoir tchadien, puis s'est senti obligé de se rapprocher d'Idriss Déby, précisément par besoin de troupes au Mali. Mais pour autant, on sentait quand même à l'époque Hollande qu'il y avait des vraies interrogations sur la suite. Sachant que personne n'est éternel, qu'est-ce qui peut advenir après, quel type de transition, quel type de succession, démocratique ou non, mais il y avait des interrogations. Et aujourd'hui, sous le gouvernement français actuel, on sent pas du tout ces interrogations. On sent des choix rapides, réactifs, sans forcément une réflexion sur l'avenir.
François Hollande, vous aviez des députés et des sénateurs qui étaient fermement engagés, par exemple, pour que la vérité éclate sur le sort de Ibni Oumar Mahamat Saleh, ce prof de maths opposant, qui a disparu dans des conditions infiniment suspectes, précisément lors de l'épisode de février 2008. Et régulièrement, quand il y avait des contacts officiels ou officieux, eh bien, on remettait ça sur le tapis. Maintenant, on lève les yeux au ciel et on soupire. Jean-Yves Le Drian lui-même, lorsqu'il a été interrogé sur l'inconditionnalité apparente de son soutien au régime de N'Djamena, a dit « mais ceci ne m'empêche pas d'inviter le pouvoir tchadien à engager des réformes, notamment sur le plan social, et à tenir la promesse de ces législatives télescopiques qui devraient maintenant intervenir au deuxième semestre, je crois, ou au premier semestre 2019. C'est le dernier engagement de Déby. Donc on voit bien qu'on a baissé la mire, soyons clairs. Et c'est d'ailleurs un phénomène qu'on peut observer dans d'autres pays de la région et qui est très préoccupant, c'est que pendant ce temps-là, alors même si une partie significative de l'opinion est rassurée d'une certaine manière par ce magistère militaire qui pèse au-dessus du pays, dans les jeunesses africaines, et y compris dans la jeunesse tchadienne, l'image de la France se dégrade à grande vitesse. Et moi, je suis sidéré par la cécité de beaucoup de nos décideurs quand on souligne à quel point le fait de s'enivrer de références lyriques sur le lien privilégié qui nous unit, etc., etc., n'a plus aucune résonance dans de nombreuses jeunesses africaines. Là, je trouve qu'il y a un court-termisme qui est assez préoccupant et que la France paiera, mais qu'elle paye déjà dans beaucoup de pays. Pourquoi tant d'étudiants qui avaient la langue en partage, comme on adore dire à la francophonie, vont maintenant au Canada, à Londres, en Allemagne, à Pékin ou à Moscou ? Eh bien aussi parce qu'ils ne sentent plus cette forme de fraternité culturelle et historique avec un pays qui systématiquement vole au secours de pouvoir à bout de souffle.
Est-ce que les 1500 ressortissants français qui vivent au Tchad et que le gouvernement avait appelé, gouvernement français avait appelé à la prudence en février, est-ce qu'ils sont victimes? Est-ce qu'ils sentent? Est-ce que vous savez ça? S'ils sentent ce ressentiment de la population tchadienne?
Quand on discute à la France. Avec les gens sur place, évidemment, on se rend compte qu'il y a un sentiment anti-français de plus en plus fort et qui s'explique très bien par l'histoire et par des événements beaucoup plus récents. Ces ressortissants français sont peu nombreux, les intérêts économiques de la France au Tchad sont limités, il y a du pétrole mais il n'est pas exploité par les Français. Par contre, la France a construit, ce qui ne va pas de soi, le Tchad comme un verrou stratégique dans la région, et c'est une façon pour la France de maintenir son statut de puissance moyenne. Et il y a un refus aussi de la France d'accepter d'être un pays européen parmi d'autres, d'avoir certes un siège permanent au Conseil de sécurité, mais de ne plus être une puissance impériale. Enfin, ce qui me frappe avec ce nouveau président Emmanuel Macron, qui revendique le fait de venir d'une nouvelle génération, c'est qu'il y a malgré tout une forte continuité dans la politique française de ce qui est pensé comme une nécessité d'avoir une base arrière en Afrique centrale, d'avoir des pays qui vont voter avec la France à l'ONU. Et je pense qu'il est temps qu'on remette en cause la politique française au Tchad, mais aussi plus largement qu'on discute de l'image que la France a d'elle-même et de cette difficulté à sortir de ce cadre post-colonial.
Parce que la France, comme l'ONU, préfère ignorer les racines locales des problèmes, Jérôme Tubiana.
Pas forcément, et ça évolue, mais aujourd'hui, je sens une indifférence aux réalités locales qui est très très forte. Ce que fait la France au Tchad, finalement, c'est vraiment de la politique de défense des intérêts de la France, que ce soit sur le terrorisme, sur la migration, etc. Même l'armée tchadienne peut se sentir instrumentalisée. C'est pas forcément des intérêts tchadiens, en tout cas.
La France a peut-être besoin d'Idriss Déby pour sa politique sahélienne, mais Idriss Déby a aussi besoin de la France. Hein. Vincent parlait tout à l'heure des 4 millions d'euros donnés chaque année pour l'achat de carburant au Tchad. Est-ce que Paris n'a quand même pas des moyens de pression pour que le régime entame un véritable dialogue avec l'opposition ? Peut-être pas forcément tout de suite des groupes armés, mais au moins l'opposition traditionnelle, Vincent Hugeux.
Idriss Déby est un partenaire rugueux et extrêmement habile tactiquement. C'est-à-dire que chaque fois qu'une tentation affleure de l'inviter, par exemple, à traiter de manière plus équanime son opposition, eh bien, il hausse le ton. Je l'ai vu, par exemple, faire un numéro de claquette lors d'un forum pour la paix et la sécurité en Afrique, à Dakar, où vous aviez l'impression d'un duo comique ou tragicomique entre lui et Le Drian l'ayant un peu aiguillonné, un peu tisonné sur cette dimension-là. Déby s'était lancé dans un monologue et avait été acclamé par la foule, journalistes africains compris, dans la salle. Donc la France y va vraiment sur des œufs et avec des pincettes. Parce que la rhétorique souverainiste est aussi parfaitement maîtrisée par Déby, quelle que soit la dette qu'il a contractée, lui, l'ancien stagiaire de l'école de guerre, et dont j'ai découvert une fois en enquêtant sur sa jeunesse qu'il avait appris le pilotage dans une école privée près d'Asbrook dans le Nord. C'est une façon de dire qu'il connaît très très bien, comme beaucoup de chefs d'État africains, notre mode de fonctionnement. Et il dispose de toutes les munitions lexicales, linguistiques souhaitables pour mettre le doigt là où ça fait mal si on vient le titiller un peu trop à son goût.
Je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'ailleurs d'une rhétorique souverainiste en l'occurrence, mais plutôt notamment à Dakar, d'une rhétorique panafricaine.
Oui.
Parce que Déby a très bien compris l'intérêt qu'il avait à montrer dès le départ qu'il avait été un analyste plutôt très clairvoyant des risques de l'intervention française en Libye, pour lui-même, mais aussi pour le Mali et pour d'autres pays de la région. Et il le rappelle à chaque occasion, et pour le coup, il n'a pas tout à fait tort, puisque en l'occurrence, non seulement il pâtit lui-même de cette situation, mais il la gère en première ligne pour le compte de la France.
Un mot de conclusion, Marielle Debeau.
Je pense qu'on n'est plus dans un moment où on peut simplement s'intéresser à des interventions comme si la France pouvait arriver et comme un chirurgien qui intervient régler une crise à laquelle elle ne serait pas déjà partie prenante. Je pense qu'il faut qu'on reconsidère la façon dont on aborde le problème et voir que la France est historiquement un des acteurs clés dans les conflits au Tchad.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Marielle Debeau, vous avez publié en 2013 Le métier des armes au Tchad aux éditions Cartala. Vincent Hugeux, votre dernier livre Kadhafi est paru chez Perrin en 2017. Et Jérôme Tubiana, vous avez publié en 2018 une BD Guantanamo Kid chez Dargaud. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand qui m'a aidé à la préparer. À demain pour parler du Soudan et du vent de contestation qui souffle depuis plus de 3 mois.